Reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez un peu la manière où le monde avance, le besoin d'avoir tout, de se pourvoir de tout, au point même parfois même de faire de grandes dettes au-delà de ce qu'on peut rembourser, et après de se trouver dans une situation difficile et ne pas y arriver. Or, la parole de Dieu nous indique quand même que Dieu ne souhaite pas qu'on prenne une charge qu'on ne peut pas honorer, parce que ça en va de notre témoignage. Mais je ne veux pas m'attarder ce matin sur la partie matérielle, financière. Moi, j'aimerais m'attarder sur la partie spirituelle, où à un certain moment, on doit reconnaître qu'on a une dette. Et je voudrais vous dire, ce matin, vous êtes tous doublement endettés. La première dette, puisque la parole de Dieu nous en parle, il dit, ayez une seule dette, celle de l'amour des uns pour les autres. Alors regardez bien votre voisin, votre frère, la personne qui est devant vous, derrière vous, celle qui est loin de vous, mais elle doit être proche de vous, et dites-vous, j'ai une dette envers ce frère, envers cette sœur, envers ce grand, envers ce petit, j'ai une dette. Est-ce que ça vous va, la dette? Bande d'endettés que vous êtes. C'est une belle dette, celle-ci. Non? Mais il y a une deuxième dette. Et celle-ci, j'aimerais en parler encore ce matin, puisqu'il est question d'un jeune homme qui pense en réalité les choses autrement. On va lire un texte en Marc, chapitre 10, les versets 16 à 21. Marc, on met notre cher Marc, non pas ceux qui sont assis parmi nous, quoiqu'ils sont chers à notre cœur, amen, mais dans l'évangile de Marc, un de mes quatre évangiles préférés, je n'ai quatre préférés, il fait partie, Marc, chapitre 10. Versets 16 à 21, il dit: Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Première chose, c'est qu'on se trouve face à un jeune homme ou un homme, peu importe, si vous lisez dans les autres évangiles, il nous dit d'un jeune homme, mais je crois qu'on est toujours jeune homme. La personne qui avait un certain âge dans la parole de Dieu, c'est, sauf erreur de ma part, c'est Noé, qui mourut à. Il avait dépassé les 800 ans. Donc, excusez-moi de dire que ce matin, on est tous des petits genoux. N'est-ce pas? En regardant ce texte, il y a un homme qui court et se jette à genoux devant Jésus et lui dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une belle question, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous interpelle tous et on se dit quelle spontanéité, quel zèle dans le cœur de cet homme. Qu'est-ce que ça serait merveilleux de voir tous les dimanches des hommes et des femmes se mettre à genoux, dire Seigneur, je veux l'héritage. Seigneur, donne-moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir un héritage? Mais quand on fouille un peu, on se rend compte que quand même, il y a quelque chose qui interpelle, c'est la manière où Jésus va lui parler. La démarche de cet homme, elle est bien. Si on examine un tout petit peu, le texte dit qu'il a couru à Jésus. Il court à Jésus. Il se presse de venir aux pieds du Maître et de recevoir quelque chose de bon. Et je crois que ce matin, chacun d'entre nous, on a besoin et on a envie de quelque chose de bon de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Cet homme, il a compris, c'est à genoux que ça se passe. C'est bien, c'est une bonne attitude. Il est à genoux et il fait preuve d'humilité, de respect envers celui qui reconnaît être maître. Il sait ce qu'il veut et donc il sait comment le demander. Il ne cherche pas du mystique, mais du spirituel. Il ne verra pas vers Jésus en disant « Seigneur, fais que je puisse faire autant de miracles que toi ». Il ne viendra pas dire à Jésus « Fais-moi marcher sur les eaux ». Il ne viendra pas dire à Jésus « Ah, si je pouvais avoir un petit nuage qui m'attend le matin pour me télétransporter d'un côté à l'autre ». Non, il vient dire à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» La question elle nous semble tout à fait plausible. Mais ce qui est interpellant, c'est la réponse que Jésus va faire. « Pourquoi m'appelles-tu ?» Bon. Qu'attends-tu de moi? Il est important de savoir ce que nous attendons des autres. On est souvent dans une attente les uns des autres, n'est-ce pas? Quand on ne va pas bien, on attend, on espère que la personne qu'on va croiser puisse nous poser la question « Comment tu vas vraiment ?» Quand on a quelqu'un face de nous qui a peut-être une solution pour nous, qui pourrait nous secourir, on aimerait qu'il nous pose la bonne question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? N'est-ce pas? On a des attentes. On va chez le médecin. Quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce que vous attendez du médecin? Qui vous soigne ou qui vous dise juste, ça fait combien maintenant la consultation? 25 euros. Waouh! Pas mal. Cet homme vient et dit au Seigneur, qu'est-ce que, Seigneur, j'ai besoin que tu me répondes. Il est important de savoir ce que nous attendons des autres, mais aussi ne pas oublier ce que les autres peuvent attendre de nous. N'est-ce pas? Parce qu'autrement, on est dans une relation très égoïste. On attend toujours quelque chose des autres. Je me rappelle d'une personne que j'avais eue en entretien où il y avait toute une situation bien particulière avec une autre personne et dit « Mais quand il changera, je changerai. » J'ai dit « Et tu sais que ton voisin dit la même chose. Donc si vous, il n'y en a pas un qui se décide à changer, ben, ça va durer longtemps la musique. » « Oui, et alors ?» J'ai dit ben, « Vous n'entrerez ni l'un ni l'autre dans le ciel. »« Ah bon ?» Ah ben oui. En ce qui dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Est-ce que tu es en paix? Ah. Donc réfléchis, rentre chez toi, prends un temps de méditation, de prière, et après tu reviens, on en rediscute. Et Dieu a fait grâce. J'aimerais prendre un deuxième texte qui va nous comprendre aussi pourquoi la question de Jésus. Pourquoi Jésus va dire certaines choses à cet homme. Matthieu chapitre 18, versets 22 à 27. On va faire un parallèle de ces deux histoires parce qu'il y a une certaine ressemblance. Le texte dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et il dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. On peut dire que ça, c'est un bon maître, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est capable de compassion, de patience, capable même de revenir en arrière par rapport à une décision qui est déjà arrêtée, capable de mettre de côté ses droits, puisque c'était son droit de se faire rembourser comme ça, parce qu'à un certain moment, il est ému de compassion. Mais on a quand même quelque chose qui doit nous interpeller, c'est que le premier homme qu'on a vu qui s'est lancé au pied de Jésus, il dit « Bon, bon maître », et Jésus lui dit « Pourquoi tu dis bon. Il y en a un seul qui est bon. N'est-ce pas? Quand on regarde le texte de Matthieu, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. En réalité, cet homme, il était conscient de sa dette. N'est-ce pas? Il savait que il n'aurait pas pu aller plus loin, voir sa situation était arrivée, excusez-moi, au ras des pâquerettes, parce qu'il n'avait pas, en réalité, payé sa dette. Il ne s'était pas acquitté de sa dette. Mais le premier homme dans notre évangile de Marc, lui, il est venu, il s'est mis aux pieds de Jésus et dit: Bon maître. En réalité, son regard envers Jésus est celui de dire: Tu es un bon maître, mais tu as de la sagesse humaine. Et Jésus, il dit: Pourquoi tu dis que je suis bon? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Tu cherches une sagesse humaine. Alors Jésus lui pose la deuxième question. Tu connais la loi, tu sais ce que la loi impose. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? C'est quoi la réponse du monsieur? Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Quelque part, ça veut dire je n'ai pas de dette. Seigneur, je suis acquitté de tout. Tout va bien. C'est magnifique, hein? Vous comprenez pourquoi, à certains moments, Jésus répond d'une certaine manière. Quand on analyse la parole de Dieu et qu'on se penche un peu plus, on se dit: Seigneur, mais la démarche, même si la phrase, elle était bonne, c'est qu'en effet, il veut plus, mais il n'est pas prêt à s'acquitter de sa dette. Or, chacun de nous, nous avons une dette devant Dieu. Chacun de nous, nous avons une dette que nous ne pourrons jamais payer. Malgré tous nos efforts personnels, on n'arrivera jamais à payer notre dette parce que le taux d'intérêt grimpe à cause de nos manquements. Vous voulez faire un essai? Pas aujourd'hui, ça serait trop simple. Demain matin, vous vous engagez à ne rien faire de travers pendant toute la journée. Mais rien, ne rien dire de travers. Ne rien penser de travers. Compliqué là, hein, déjà. Hein? C'est corsé déjà. De rien imaginer de travers. De rien attribuer aux autres de travers. Et si vous y êtes arrivé, demain soir, vous me téléphonez. Allez. J'ose dire, vous pouvez m'appeler jusqu'à minuit. Puisque c'est jusqu'à minuit quand même la journée, non? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que toutes les bonnes choses pourront en réalité couvrir toutes les mauvaises pensées, les mauvaises... Voyez bien. On ne peut pas s'empêcher de penser. Alors vous imaginez, demain matin, vous sortez de chez vous, vous voyez votre voisin qui vous a fait des trucs pas possibles, et vous êtes là: Oh, Seigneur, bénis-le. Mais un instant, vous avez dit quand même dans votre tête: Ah, Seigneur, bénis-le quand même. Hein. Et déjà là, c'est grillé. Là, déjà, c'est grillé. Donc vous avez beau faire 10 services à votre voisin pour rattraper ce... Vous avez toujours une dette. C'est ce qui fait qu'en réalité, on ne pourra jamais payer par nous-mêmes notre dette à Dieu parce que notre nature pécheresse prend le dessus. Et ça vaut pour tout le monde, moi le premier. Et si on devait compter sur nous-mêmes pour nous sauver, alors pourquoi Jésus serait venu, excusez-moi, pour souffrir à la croix? Pour quelle raison Jésus aurait dû accepter de quitter son trône éternel pour venir sur la terre, pour souffrir, pour vivre les mêmes situations, les mêmes circonstances? Il n'a pas choisi une place facile. Il aurait pu venir comme empereur, il aurait pu venir comme roi des rois, il aurait soumis la terre tout entière. Mais non, il a accepté de venir comme un enfant normal. Il est né dans une crèche. ça sentait pas forcément bon dans une crèche, non? Visitez une crèche, vous verrez. Pourtant, c'est là qu'il est venu. Et quand il accepte de venir habiter dans notre cœur, excusez-moi, mais notre cœur ne sent pas bon non plus. Et pourtant, lui, il accepte de rentrer, de faire le ménage dans notre cœur. Il accepte de venir nettoyer ce qui ne va pas dans notre vie. C'est pour cela que, frères et sœurs, tous les jours, nous avons besoin de faire recours au Seigneur en disant, Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Avant de m'endormir le soir, vous savez quelle est la bonne manière de dormir le soir? C'est de remettre les compteurs à zéro. Avez-vous déjà essayé cela? Le soir, avant de vous endormir, mettez vos compteurs à zéro. Ça veut dire quoi? Prenez le temps d'analyser votre journée devant Dieu. Et dire, Seigneur, voilà, il y a eu des circonstances aujourd'hui où je n'ai pas été à l'auteur. Je n'ai pas été capable de maîtriser ni mon cœur, ni ma langue, ni mes pensées, ni mon corps. Seigneur, je te demande pardon, mais vraiment, pas comme une coutume, vous savez, la petite prière du soir. C'est de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton secours et je viens m'humilier devant toi. Seigneur, transforme mon cœur, transforme ma vie. Vous savez, tout le fardeau qui peut peser sur nous s'en va. On dort beaucoup mieux. Alors, ça ne veut pas dire que si vous faites de l'insomnie, c'est parce que vous n'avez pas remis les compteurs à zéro. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais parfois, frères et sœurs, c'est une raison. C'est une raison. Et cet homme qui se trouve au pied du maître, avec facilité, va dire, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Don't worry. Tout va bien. J'assure. » Et vous comprenez pourquoi le Seigneur lui dit, « Mais il te manque une chose. » Alors, je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un nous dit « Il te manque une seule chose », c'est déjà un bon indicateur, non? Ça veut dire que 99% du travail est fait. Non? Il te manque une chose. Ah, chouette! Seigneur, une chose et c'est réglé. J'ai carton plein. Mais il t'en manque encore une. Et peut-être la plus compliquée. Puisque c'est celle que cet homme va refuser de faire. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, fais-toi un trésor dans le ciel et suis-moi. Toi, suis-moi. Et pas l'inverse. Une chose, c'est pas grand-chose. Ah, vous allez vous dire, ouais, pasteur, quand on n'a pas un bon compte en banque, c'est pas grave. Si on a zéro à la banque et qu'on donne zéro aux autres, ça va. Pas cher. C'est pas compliqué. Mais s'il y a beaucoup de billets et qu'il faut compter, qu'on les voit partir, hein. Lui, un temps, on avait démarrer une entreprise, et des fois, je ne vous cache pas, je rentrais à la maison, je savais les factures qu'il y avait à payer, je voyais les sous, ils étaient rentrés juste pour payer les factures, je disais à ma femme, attends, 30 secondes. Je les posais sur le fond, je disais juste pour que le mal de tête s'en aille. Et après, on les voyait partir. Non? Ça vous arrive? Mais là, ce jeune homme, il avait des richesses. Il y a probablement une chose qui n'est pas forcément financière dans notre vie, mais qui en réalité nous empêche de recevoir la vie éternelle, le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas de dire « Seigneur, j'ai une dette envers toi ». Vous savez, si cet homme était venu au pied de Jésus en disant « Seigneur, tout ça, je l'ai fait, mais j'ai encore une dette envers toi », je pense que la réponse de Jésus aurait été bien différente. Puisqu'il y a d'autres à qui Jésus l'a dit aujourd'hui, « Ah ben, tu t'es approché du royaume des cieux. Waouh !» Non ? Ce centenier qui vient lui dire, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi », il reconnaît qu'il a une dette, non ? Cette femme qui vient pleurer au pied de Jésus, elle reconnaît qu'il a une dette. Cette femme qui se dit, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de venir à Jésus, je suis impur, mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, elle sait qu'elle a une dette. Elle n'ose même pas lever les yeux. Et vous savez, si nous on vient au Seigneur en disant, Seigneur, moi tout va bien, c'est qu'on n'a pas compris encore qu'on a une dette. J'aimerais lire un texte avec vous, qui se trouve en Philippiens chapitre 3, verset 3 à 9. C'est l'apôtre Paul que lui aussi réalisera qu'il avait une dette. Et pourtant, regardez. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Waouh ! Moi, circoncis, le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'écart de la justice et de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle je renonce à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, non, mais avec celle qui se tient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. On pourrait se dire, l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a vécu, forcément, lui aussi, il aurait pu dire, Seigneur, j'ai toujours tout fait, bien fait, mieux que les autres. Mais vous avez vu, ça m'a interpellé. Il dit, si je devais mettre ma confiance en la chair. Et beaucoup de fois, on met confiance dans notre chair. Elle est tellement chère à notre cœur. On prend soin de nous-mêmes. On prend soin, on est humble, mais fier de l'être. On dit au Seigneur, Seigneur, je suis humble, puisque je suis humble, mais c'est normal que j'ai une place avec toi. À ta droite ou à ta gauche, Seigneur, choisis. Quand en réalité, tout ce qu'on a pu faire de nous-mêmes, tout ce qu'on a pu nous enseigner, tout ce qu'on a pu peut-être même nous inculquer, alors je ne pense pas et j'ose pas croire que ceux qui l'ont fait avant nous, ils l'ont fait avec une volonté de nous détruire. Mais ils nous ont donné ce qu'ils savaient. Ils n'avaient pas la révélation de Christ. Mais nous, qui avons reçu cette révélation de Christ, pouvons-nous continuer à marcher dans les traditions de ceux qui n'ont pas reçu cette révélation? Et l'apôtre Paul dit, mais à partir de là, pour moi, ce qui est le plus important, c'est Christ. Donc tout le reste n'a plus d'importance. Il a, excusez-moi, vidé ses poches. Il a vidé son cœur en disant, Seigneur, tout ce que j'avais pu cumuler en pensant, c'est une véritable valeur ajoutée à ma vie, mais c'est... Dans ce texte-là, il nous parle de quoi ? D'une perte. Il y a certaines traductions, ils disent des ordures. Là, il dit de la boue, des ordures. Quelque chose d'impur, quelque chose de sale, quelque chose qu'on n'a pas envie de garder comme un trésor. Est-ce que vous gardez vos poubelles à la maison comme un trésor? Non? Vous faites quoi de vos poubelles? Pourquoi, Fabienne, tu jettes la poubelle? Et que se passe-t-il si on garde des choses dans notre cœur qui sont une véritable poubelle? Que se passe-t-il? C'est infect. Ok, donc si quelqu'un vient, s'approche de moi, puisque je garde des choses qui ne sont pas bien dans mon cœur, qu'est-ce qu'il sent quand il s'approche de moi? Ouf. Je dirais même au loin, il me voit et il voit une poubelle sur pattes. Je ne peux pas lui dire, non, tu n'as pas raison, puisque j'ai fait de ces poubelles mon trésor. Mais si j'ai vidé mon cœur, si j'ai vidé ma vie de toute forme de religiosité, si j'ai vidé ma vie de tout ce qui ne concerne en rien en réalité, ne me peut pas m'apporter le salut, même si avec de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne sauvent pas, il n'y a que Christ qui sauve, n'est-ce pas? Et à partir de là, je fais habiter Christ dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, ceux qui ont envie de connaître Christ seront attirés. Non pas par moi, mais par Christ qui habite en moi. Et forcément, il y aura ce désir de dire, mais toi, tu es quelqu'un que je voudrais côtoyer parce que je voudrais comprendre qu'est-ce que tu vis, comment tu le vis. Et c'est là que on ne peut dire que, mais tu sais, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis qu'un pécheur. Mais Christ a décidé de venir habiter dans mon cœur. J'ai une dette. Aujourd'hui, ce n'est plus la dette du péché, puisque Christ a payé pour cela. J'ai une dette éternelle, et c'est celle d'aimer et servir mon Dieu pour l'éternité. Est-ce que vous aimez cette deuxième dette? On est appelé à être endetté spirituellement dans ce sens-là, pas dans d'autres sens, n'est-ce pas? Le texte nous dit « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». Malgré tout, vous savez, le Seigneur nous regarde toujours avec un regard d'amour, mais il nous dit la vérité. Ce n'est pas facile de dire la vérité à quelqu'un, surtout si cette vérité pourrait l'amener à partir. Mais c'est la vérité. Et Jésus ne va pas essayer d'arrondir les angles en disant, tu sais, suis-moi un peu, après on en discutera, tu verras, tu vas changer d'idée, on va réussir à t'inculquer la bonne nouvelle dans la tête. Et tous les matins, tu vas prendre 5 heures pour étudier la bonne doctrine, le soir 5 heures pour étudier les principes spirituels, et à force tu comprendras. Non, il lui dit, va aujourd'hui, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi. Ça veut dire, mets-moi à la première place. Quand on doit faire un choix, moi j'ai appris une chose. Plus le choix, il est important, plus c'est important de faire le choix. Parce que si je ne fais pas le choix, je suis assis entre deux chaises. Et que se passe-t-il quand on est assis entre deux chaises? Je me rappelle, à Besançon, on avait un jeune qui était venu, qui était tout petit. Et un jour, il me dit, il me parle un peu, il m'explique son cœur. Et moi, je lui dis, tu sais, tu me ressembles à quelqu'un assis entre deux chaises. Il est rentré chez lui, et la nuit même, Dieu a parlé à son cœur. Et il lui a montré qu'est-ce qui se passe d'être assis entre deux chaises. C'est que les deux chaises se sont écartées et il s'est ramassé par terre. Et vous savez quoi? Il est venu me voir le culte d'après, « Pasteur, je m'inscris à la formation baptême, je ne peux plus rester assis entre deux chaises, je sais ce qui va m'arriver. » Je dis « Alléluia, Seigneur !» Et il a témoigné le jour de son baptême. Il dit « J'étais assis entre deux chaises. Je vivais une vie, entre guillemets, chrétien, façade, et une vie dans le monde. » Et encore une fois, c'est pas évident, on ne peut pas être entre deux chaises. Alors j'aimerais terminer par dire que si le Seigneur nous demande de faire une chose, c'est certainement celle qui est nécessaire le plus dans notre vie pour qu'en réalité nous puissions le suivre. Si on regarde dans Lévitique chapitre 26, versets 39 à 41, il est écrit « Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Péché à cause duquel moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Comment payer la dette? C'est demander à Christ de la régler pour nous. C'est d'accepter le sacrifice de la croix. Qui veut hériter la vie éternelle? Il est impératif de reconnaître que nous avons une dette avec Dieu et que tous nos efforts ne pourront jamais la régler, que nous sommes incapables par nos propres moyens et que cette dette nous touche personnellement et je dirais même ainsi que notre famille. Je dis et je crois ce que je dis et puisque je le crois, je le dis. C'est que quand une famille va bien, l'Église va bien. N'est-ce pas? Mais comment une Église peut aller bien? C'est que la famille doit aller bien. Ah là, c'est grande logique. Oh, Seigneur. Mais il y a des efforts de la part de la famille. Tout ne peut pas venir de la part de l'Église. Il y a une part qui nous revient, qui est personnelle, qui est intime. Le texte nous dira... Ils confesseront. Il nous parle en Lévitique de résistance. Il nous dit aussi d'arrêter d'opposer nos raisonnements charnels aux exigences divines. Accepter de laisser Dieu circoncire notre cœur. Accepter le sacrifice rédempteur de Christ pour nos péchés. Ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin et il lui manque une chose à faire. Peut-être vous avez tout fait, tout bien fait. Un jour, quelqu'un me dit, vous savez, pasteur, moi, j'ai jamais tué personne. J'ai toujours aidé les pauvres. J'ai ceci, j'ai cela. Et quand il a fini la liste, et trois quarts d'heure plus tard, j'ai dit, oui, mais vous manque une chose. Quoi? C'est que vous l'avez fait pour vous et pas pour Dieu. Parce que si vous l'aviez fait pour Dieu, vous n'en parleriez pas. Comme vous vous êtes mis en valeur, ben vous avez déjà votre récompense. Allez en paix. Allez, ça veut dire quoi? Je dis que vous avez essayé de vous sauver par vos propres mérites, mais ça ne sert à rien. Le seul qui puisse sauver, c'est Jésus. Et le texte dit, confessez, arrêtez de résister, arrêtez d'opposer nos raisonnements, acceptez de laisser Dieu circoncire notre cœur, acceptez le sacrifice. Arrêtez de vivre pour nous-mêmes. Puis viens et suis-moi. On va fermer nos yeux. Peut-être ce matin, quelqu'un aurait besoin, avant tout, de reconnaître qu'il a une dette avec Dieu. Il y a une bonne dette qui est celle de le servir, de l'honorer. Pour toute la vie, c'est la plus belle des dettes. C'est ce que Jésus dira, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais il y a une mauvaise dette qui est celle de nos péchés, de nos transgressions, de nos manquements. Et celle-ci, elle nous sera comptée jusqu'au dernier centime, le jour qu'on sera devant Dieu. Et ce péché, cette transgression, cette manière de faire forcément a des conséquences aussi sur notre famille. C'est pour cela que ce matin, je voudrais vous dire, excusez-moi, ne soyez pas égoïstes. Pensez aux générations futures. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants. Faites le bon choix ce matin. Reconnaissez que vous avez besoin, reconnaissant que nous avons besoin de Christ. Reconnaissant que nous avons besoin d'arrêter, d'interposer nos pensées, nos traditions, nos coutumes. Mais implorons encore le Seigneur ce matin de circoncire nos cœurs, d'enlever ce qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un ce matin souhaiterait, à l'image de cet homme qui est venu reconnaître sa dette et qui a reçu une pleine grâce, est-ce que quelqu'un ce matin voudrait vivre cela avec le Seigneur? Alors, je voudrais juste vous inviter dans votre cœur ce matin, dire Seigneur, je viens à tes pieds. Seigneur, ce matin, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je n'arriverai jamais à me sortir de mon péché tout seul. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes tendre ta main. Toi qui es pur, toi qui es saint, envers celui qui est un pauvre pécheur. Mais Seigneur, à la croix, tu as voulu régler ma dette. Et Seigneur, je souhaiterais que tu règles cette mauvaise dette dans ma vie. Mais Seigneur, je veux signer aussi une reconnaissance de dette envers toi, une reconnaissance de dette éternelle, dans laquelle je déclare que je t'appartiens. Corps, âme, esprit. Seigneur, je reconnais que je suis tout à toi et que, Seigneur, je suis pas seulement ton enfant, mais aussi ton serviteur, ta servante, prêt à t'obéir, prêt à te suivre. Oui, Seigneur, je veux te suivre toi et toi seul. Seigneur, encore ce matin, merci pour tous ceux et celles qui ont pris cette décision, qui ont reconnu, Seigneur, Seigneur, ce besoin d'intervention et de secours de ta part dans notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas considérer que tu étais un bon maître parce que tes paroles étaient sages, mais parce que tu es Dieu et tu es le seul qui puisse en réalité, Seigneur, nous affranchir. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous parler avec vérité dans les cœurs. Seigneur, merci encore aujourd'hui de te révéler au cœur de ceux qui sont là, mais aussi de ceux qui sont peut-être, Seigneur, encore loin de toi. Seigneur, peut-être dans la rue, dans les difficultés, dans les épreuves. Seigneur, tu puisses te révéler au cœur et qu'ils puissent reconnaître en Jésus le Seigneur et le Sauveur. À toi toute la gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Dieu est bon.